Albert Bataille, Estoré, assassinat d'un fou, l'accusation, Beauvais, 15 juin 1830. Joseph Estoré, ancien chef de culture à Villers-sous-Erquerie, ancien maire de cette commune, comparaîtra demain devant la cour d'assises de l'Oise. Je crois qu'il n'est pas sans intérêt de donner avant l'audience le récit exact des faits. Je suis en mesure de faire connaître dans ses détails les plus précis cette cause criminelle dont on a parlé assez vaguement et sur laquelle certains journaux ont publié des renseignements tout à fait fantastiques. Villers-sous-Erquerie est une commune de l'arrondissement de Clermont. Messieurs Labitte, directeur de l'asile d'aliénés de cette ville, possède à Villers une ferme importante dans laquelle les malades les plus calmes et les plus laborieux sont employés aux travaux des champs. Le traitement des maladies mentales par la vie en plein air et le travail physique a donné les meilleurs résultats, et souvent des intelligences dans lesquelles la nuit s'était faite ont été ainsi ramenées vers la lumière. La ferme de Villiers avait pour chef de culture Estoré, l'accusé de demain. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, riche, fort intelligent, que ses compatriotes avaient choisi pour maire et qui était depuis 17 ans à la tête de l'exploitation. Il paraît qu'Estoré était redouté de tout le personnel de la ferme. On le disait emporté et brutal. Cependant, aucun fait n'avait attiré l'attention de la justice lorsque se produisirent les tragiques événements du mois de mars dernier. Parmi les aliénés employés à Villers-sous-Erquerie se trouvait un nommé Appert. Ce malheureux, habituellement très doux, entrait dans des accès de fureur des plus violents aussitôt qu'on lui parlait sur un ton d'autorité et de menace. Le 3 mars, dans la matinée, Appert était dans un de ses accès. Un de ses gardiens était venu le chercher pour un travail qui lui avait déplu, et comme on voulait le mener de force à l'ouvrage, Appert s'était jeté sur un employé et l'avait pris à la gorge. Estoré survint à ce moment, attiré par le bruit de la scène. Il commença par parler très énergiquement à Père, et le fou hors de lui s'avança pour le frapper. Le chef de culture s'éloigna et revint bientôt avec une canne. Une lutte s'engagea. Estoré faisait le moulinet avec sa canne, qui dans ce mouvement se brisa en deux morceaux. Aussitôt Père courut sur lui et lui porta de côté deux coups de pelle. On se précipita sur le fou, on le maîtrisa et on l'entraîna vers la salle de douche. Dans ce trajet, Estoré, qui s'était armé d'une fourche en bois, le frappait à coups doublés. Et il le frappa si violemment qu'à un certain moment, Appert jeta un cri terrible. Son chef lui avait cassé un bras. On plaça néanmoins le pauvre fou dans une baignoire. Il reçut la douche, mais on dut immédiatement le remettre à un gardien qui lui fit un pansement à l'alcool camphré. Pendant plusieurs jours, Appert, qui souffrait horriblement, ne reçut pas d'autres soins. On ne le conduisit pas à l'infirmerie. On négligea d'avertir le médecin du village. Enfin, le 8 mars, l'état du blessé devenant de plus en plus grave, l'homme de service auquel Estoré avait confié le fou mit son maître en demeure de conduire Appert à l'asile de Clermont, et le menaça de prévenir M. Labitte, le directeur de la maison, au cas où il refuserait de le faire. Estoré attela sa tapissière, il y fit monter Appert, prit les guides et quitta la ferme en disant qu'il allait à Clermont. Une heure après, le maire de Villiers reparaissait très surexcité et racontait qu'Appert s'était évadé en route. Il avait couru après lui, dit-il, et n'avait pu le rejoindre. Le fugitif s'était enfoncé dans les bois. L'évasion fut signalée immédiatement à la maison de Clermont et pendant plusieurs jours, la gendarmerie battit sans succès le pays. Tout était redevenu calme à Villers. On ne parlait plus de la mystérieuse disparition d'Appert, ou du moins, on n'en parlait que tout bas. Cependant, autour de la ferme, trois hommes découvraient des traces singulières et poursuivait en silence une enquête dont on va voir le résultat. Au moment où Westoret avait quitté la ferme, conduisant Père dans sa tapissière, un groupe de paysans, et parmi eux un garde particulier nommé Leclerc, avait remarqué avec étonnement la direction que prenait la voiture. « C'est drôle, avait dit Leclerc. Notre mère ne va pas à Clermont aujourd'hui. Le voilà qui s'engage dans le chemin de Breuil-le-Sec et qui tourne du côté des Marnières. » Quand, le lendemain, on lui apprit qu'un père s'était évadé sur la route de Clermont, un soupçon étrange, et qu'à ce moment il ne s'expliqua peut-être pas, complètement lui-même, traversa l'esprit du garde. Sous l'empire d'une préoccupation singulière, il s'engagea à son tour dans le chemin de Breuil-le-Sec et suivit attentivement le sillon qu'avaient creusé dans la terre grasse les roues de la voiture d'Estoret. Arrivé à la hauteur des Marnières, Leclerc vit distinctement, au milieu de la route, l'empreinte d'un pied nu. Puis, le sol était foulé, éraillé, comme si on avait traîné et roulé un corps pesant. À un certain moment, ces traces disparaissaient tout à coup. Évidemment, on avait dû recharger dans la voiture ce corps pesant qui en avait été tiré. La tapissière avait ensuite continué sa route et s'était arrêtée de nouveau à côté d'un silo de pommes de terre. Leclerc ne poussa pas ce jour-là ses investigations plus loin. Il revint absolument persuadé qu'une lutte avait dû s'engager près de la Marnière, entre le maire de Villers et le malheureux aliéné, et qu'à la suite de cette lutte, un père avait été réintégré, mort ou vif, dans la voiture dont il était sorti, ou dont on l'avait tiré. Ce fut seulement quelques jours plus tard que le garde rencontra un de ses collègues, nommé Chenot, qui avait fait lui aussi d'intéressantes remarques. Chenot n'avait pas vu la voiture du maire de Villiers tourner dans le chemin de Breuil-le-Sec, mais il l'avait vu s'arrêter devant le silo de pommes de terre. Estoret était descendu, muni d'une pelle, et montant sur le toit du silo, il avait creusé le sol près du fossé. De la fenêtre de sa ferme, d'où il observait cette scène, Chenot n'avait distingué que vaguement les choses. La nuit tombait, et il n'avait pu suivre jusqu'au bout, dans son singulier travail, le chef de culture de la ferme de Villers. Mais il se promit d'aller visiter le lendemain le silo de pommes de terre. Il s'y rendit, en effet, accompagné du garde champêtre de Blois, et certain qu'Estoret avait enterré là quelque chose, il fit, à l'aide d'une sonde en fer, des recherches d'abord inutiles. Quand Leclerc, Chenot et de Blois eurent appris la disparition d'un père et se furent communiquer leurs découvertes et leurs impressions, il n'y eut plus de doute pour eux. Évidemment, Estoret avait tué le fou dans le chemin de Breuil-le-Sec et l'avait enterré dans le silo de pommes de terre. Les fouilles furent continuées avec précaution. Enfin, au bout de 20 jours, Chenot crut sentir au bout de sa sonde quelque chose de mou et il s'écria « Oh, voilà le corps! Je vais prévenir Monsieur Labitte !» C'est alors seulement que le directeur de l'asile de Clermont a pris la scène de violence du 3 mars et put croire à un crime. Il se rendit à Villers, accompagné de son frère médecin en chef de l'asile, et interrogea Estoret, et M. Labitte ne lui concha pas l'accusation qu'il faisait sur lui. Estoret parut très troublé, mais il protesta avec colère, et prenant une longue canne, il annonça l'intention de pratiquer lui-même des fouilles dans le silo. Ces fouilles, faites sous sa direction, n'aboutirent à pas. Le garde Chenot y assistait, impassible. Au bout d'une demi-heure, le maire de Villers s'arrêta et dit « Vous voyez bien, il n'y a rien !» Le garde s'avança et lui prenant des mains la canne « Vous n'avez pas cherché là » fit-il. Creusant alors lui-même le sol, il découvrit bientôt un pied humain, puis un corps, puis une tête. C'était celle d'un père. Estoret jeta un grand cri « Oh, je suis perdu !» et s'enfuit. Le parquet se transporta le lendemain à Villers et en présence des magistrats, on procéda à l'exhumation du cadavre. Le malheureux fou avait été étranglé. Il portait autour du cou une corde encore serrée. Son bras en écharpe était maintenu avec un mouchoir maculé de boue, la boue grasse du chemin de Breuil. C'est là qu'Estoré avait dû le tirer de la voiture. Il avait couché par terre et lui avait passé autour de la gorge le nœud coulant. Un père mort, Estoré avait rechargé le cadavre et était venu l'enterrer près du silo. Les journaux ont raconté comment l'accusé revint spontanément de Belgique, où il s'était réfugié, et rentra en France accompagné de M. Massé, chef de la police de sûreté. Interrogé, l'inculpé prétendit qu'une fois en route, Appert s'était jeté sur lui. Estoré, doué d'une force peu commune, avait pu le maintenir. Alors il l'avait pris par sa cravate et involontairement l'avait étranglé. Alors, saisi d'épouvante et craignant qu'on ne l'accusât d'assassinat, il avait pris la résolution de faire disparaître le cadavre. Tel est le système de défense. Mais l'accusation demandera sans doute à Estoré comment le malheureux fou eut pu attenter à sa vie avec son bras cassé et dans l'état de souffrance où il se trouvait. Sans doute elle lui demandera pourquoi cette corde qu'il avait emportée et pourquoi ce détour dans le chemin désert de Breuil-le-Sec au sortir de la ferme. Toutes ces circonstances paraissent en effet inexplicables, sauf dans un seul cas. Craignant pour sa situation après la scène de brutalité du 3 mars et le résultat si grave qu'elle avait eu, Estoré, dit l'accusation, a résolu de faire disparaître le blessé et il a mis froidement à exécution l'horrible dessein qu'il avait formé. Tel est le procès dont nous allons suivre le dramatique débat. Maître Lachaud a bien voulu accepter la défense de l'ancien maire de Villiers, et la présence de l'illustre avocat augmente encore l'intérêt qui s'attache à cette affaire.
Les débats. 16 juin. Estoré est un homme de 50 ans, trapu, extrêmement vigoureux, à la barbe et aux cheveux poivre et sel. L'œil est assez dur, les traits sont fortement accentués. L'ensemble du visage annonce une nature brutale, un tempérament irascible et violent. Estoré est vêtu comme un fermier, endimanché, de ce costume noir de coupe antique qu'on tire des armoires à la campagne au grand jour de l'année. J'ai rarement vu un accusé se défendre aussi mal. L'ancien maire de Villers paraît complètement abattu. Il y a quelques jours encore, paraît-il, Estoré croyait à un acquittement. Depuis, Maître Lachaud a conféré longuement avec lui, et l'éminent avocat n'a pas dû encourager beaucoup son client dans cette espérance. Les débats sont dirigés par Monsieur le conseiller Pichon de la cour d'Amiens. Le siège du ministère public est occupé par Monsieur l'avocat général Bayle, frère de cet ancien préfet de la Drôme, que l'instituteur Autier tenta d'assassiner en pleine séance du Conseil général il y a 3 ans. Sur la table des pièces à conviction, on aperçoit une grande caisse contenant les vêtements du malheureux Appert, à côté une énorme canne creuse qui renfermait autrefois un long poignard, et à l'aide de laquelle Estoré allait frapper le malheureux fou quand elle se sépara en deux morceaux dont la gesticulation animée à laquelle il se livrait. L'interrogatoire a été rapidement mené. Du reste, l'accusé n'a répondu que par des dénégations obstinées, en s'égarant parfois dans des explications confuses portant sur des points sans intérêt. À diverses reprises seulement, il a prononcé le mot folie. Faut-il voir là l'indication d'un nouveau terrain de défense? Vous étiez, demande Monsieur le Président Plichon, depuis 18 ans à la tête de la colonie agricole de Villers, qui dépend de l'asile de Clermont. Monsieur Labitte, qui dirige cet établissement, était satisfait de vos services. Cependant, vous inspiriez, à cause de votre violence, une terreur véritable aux aliénés que vous étiez chargé de faire travailler, et généralement à tout le personnel placé sous vos ordres. Réponse. Oh, si j'avais été si violent, on m'aurait regardé. Ah, vous auriez pu cacher vos habitudes de brutalité, comme vous avez caché la scène du 3 mars 1880, dans laquelle vous avez brisé le bras du malheureux Appert. Pas de réponse. Monsieur le Président précise. Un jour, un pauvre petit idiot s'étant évadé, ayant été repris, ne l'avez-vous pas fait poursuivre nu dans la neige par un autre aliéné que vous avez armé d'un fouet? Jamais. Un témoin a dit de vous que vous ne faisiez pas de différence entre un homme et une bête. Je n'ai jamais frappé les malades, par exemple. Oh, je dis pas une gifle de temps en temps, on peut bien donner une gifle. Vous donniez même des coups de cravache et des coups de bâton. Monsieur le Président arrive immédiatement à la scène du 3 mars 1880, dans laquelle le pauvre fou à père fut si odieusement martyrisé. Ce pauvre garçon avait 19 ans. Il était faible et doux. L'affection mentale dont il souffrait le poussait à une profonde mélancolie. Appert était regardé comme tout à fait inoffensif. Oh, pas si inoffensif que cela. Le 3 mars, comme il refusait d'aller au travail, vous êtes intervenu et vous avez couru sur lui en le traitant de feignant. Je n'ai pas injurié. Il a répondu à mes observations en me donnant deux coups de pelle dans les côtes. C'était un homme qui avait de la vengeance sur moi. Vous avez alors pris tour à tour une canne qui s'est cassée entre vos mains et une fourche à l'aide de laquelle vous avez frappé à pair à tour de bras. Il fallait bien y mettre la main. Le malheureux n'avait pas tardé à être emmené par les gardiens. Il fut entraîné vers la salle de douche. À ce moment, il était prisonnier, hors d'état de se jeter sur vous. Pourquoi l'avez-vous poursuivi en le frappant brutalement à coups de fourche sur la tête? Bon, pas. Il était couvert de sang, de plaies, et il jetait des cris horribles en demandant pardon. Et puis il a voulu protéger sa pauvre tête à l'aide de son bras gauche. Votre fourche a voulu s'abattre sur le bras et la briser. Le coup était si violent que les os furent en quelque sorte broyés. Bon, je sais pas si les os ont été broyés. Vous avez encore continué à le battre après cela. Et tout blessé qu'il était, vous lui avez fait donner la douche. Malgré ses supplications, on lui a jeté 4 ou 5 seaux d'eau sur la tête pendant que vous le frappiez à coups de fourche dans la figure. Mais c'est une scène horrible. Quand un père fut sorti de la salle de bain, transi, presque mourant, avec son bras mutilé et déjà enflé, Esteret appela un gardien et lui dit de soigner le blessé avec de l'alcool camphré. Vous avez ajouté, n'est-ce pas, que c'était bien assez bon pour lui? Non. Et que ça lui reprendrait qu'une bonne volée comme celle-là l'empêcherait de recommencer. En effet, vous vous êtes arrangé de façon à ce qu'il ne se reconnaisse pas. Vous l'avez tué. L'accusé, d'une voix embarrassée, « Oh, je croyais pas l'avoir tué. » Pendant 5 jours, ce malheureux n'a pas reçu d'autres soins. Pendant 5 jours, les médecins sont venus à Villers et vous leur avez caché le blessé. « Mais pas vu venir les médecins ?» Au bout de 5 jours, le gardien Halavan, voyant un père avec la fièvre et un commencement de gangrène, vous a sommé de le conduire à l'infirmerie de l'asile de Clermont. « Pourquoi cachiez-vous cet homme ? Sans doute vous aviez peur que l'acte d'odieuse brutalité dont vous étiez rendu coupable ne vous fît renvoyer de la ferme. Et vous aviez peut-être prémédité déjà de faire disparaître votre victime. » « Oh non, monsieur !» Parti le 8 mars à 5 heures du soir avec un père dans sa voiture, Esteret revint 1 heure après en disant que le malade s'était enfui. « C'était un mensonge, et d'abord, au lieu de prendre la route de l'asile de Clermont, vous êtes engagé dans un chemin désert, le chemin de Breuil-le-Sec, qui continue d'une marnière. »« Non, monsieur !» Ne niez pas, le garde Leclerc vous a vu et il a retrouvé les traces qu'avait laissées votre voiture. Qu'alliez-vous faire dans ce chemin? Mais je n'y suis pas allé. Et pourquoi aviez-vous emporté avec vous une bêche et une corde? Vous n'emportez ni corde ni bêche? Nous allons voir cela tout à l'heure. Le garde Leclerc, en apprenant la disparition d'un père, a conçu des soupçons. Il a commencé seul, sans rien dire à personne, une sorte d'enquête. Et d'abord, il a suivi les sillons tracés dans le sol par les roues de votre carriole. Et il a vu qu'à la hauteur de la marnière, on avait traîné et roulé à terre un corps pesant. Au bout de plusieurs jours de recherche, cet homme a fait part de sa découverte à un des camarades, le card Chenot. Chenot, lui aussi, avait vu des choses intéressantes. Il avait vu votre voiture s'arrêter près d'un silo de pommes de terre. C'est pas possible! Vous avez vu vous-même creuser la terre. Et quand il eut creusé avec Leclerc, il fut convaincu, comme ce dernier, qu'après avoir tué un père, vous l'aviez enterré là. C'est alors le 26 mars que Chenot prévint le directeur de l'asile de Clermont, Monsieur Labitte. Le jour même, on interrogeait Destoret. Vous avez essayé de soutenir encore qu'Appert s'était évadé. Vous avez fait au docteur plusieurs récits contradictoires de cette évasion. Il vous a interrompu brusquement. Je sais, vous a-t-il dit, où vous avez enterré ce malheureux. C'est dans le silo de pommes de terre. Alors vous avez pâli, vous vous êtes reculé brusquement. Et reprenant votre assurance, vous vous êtes écrié. Mais je suis innocent, je ferai moi-même des fouilles dans le silo. En effet, des fouilles ont été faites sous votre direction et on n'a rien trouvé. On ne creusait pas assez profondément. Et pourquoi ne disiez-vous pas où était le cadavre? Vous le saviez bien, vous. Vous ne l'avez pas trouvé à la même place. Qu'est-ce à dire? Prétendriez-vous soutenir que le corps ait été déterré à votre insu et enfoui dans un endroit autre que celui où vous l'aviez placé? Oh non, non, non. Prétend pas cela. C'est, on le sait, le garde Chenot qui, assommé de justifier ses accusations, retrouva le cadavre. Il mit à nu successivement les mains, puis le corps et la tête du malheureux, à père. Alors, Estoret, n'avez-vous pas crié « Je suis perdu ?» L'accusé, d'une voix tremblante, « Je me rappelle pas, j'étais comme fou !» Et vous vous êtes enfui en disant à M. Georges Labitte, j'aurais mieux fait de conduire à père à l'infirmerie. Je ne sais plus. L'interne de Villers, M. Laurent, qui se trouvait présent, vous a apostrophé avec véhémence en vous disant, misérable, tu couronnes bien ta carrière. Vous êtes même engagé à vous suicider. Quant à M. Georges Labitte, il vous a enjoint d'aller vous constituer immédiatement prisonnier à Clermont. Alors vous êtes parti et vous avez gagné la Belgique, puis l'Angleterre. Maintenant, voyons, comment vous décidez-vous à expliquer la mort d'Appert? Ben, il m'a attaqué sur la route. Il a commencé à me donner des coups de poing sur la tête. Je l'ai pris à la cravate et je l'ai serré. Longtemps? Oh, 3 ou 4 minutes. Jusqu'à ce qu'il fût mort. Et vous espérez faire admettre ce système? Et ça s'est passé ainsi. Alors pourquoi avez-vous raconté cette fable, l'évasion? J'étais comme fou. Vous espérez faire croire que ce malheureux père, faible et blessé comme il était, miné par la fièvre, ayant le bras cassé et un commencement de gangrène, pouvait lutter avec vous, qui êtes d'une force exceptionnelle. Estoret ne répond pas et paraît complètement anéanti. Monsieur le Président le presse encore davantage. Vous avez, dites-vous, étranglé Appert avec sa cravate? Oui. Alors comment se fait-il qu'on l'ait retrouvé dans la fosse, une corde au cou? Une corde, je sais pas. Oui, une corde, qui faisait 2 fois le tour du cou de ce malheureux et qui avait été serrée avec tant de violence qu'elle avait entamé les chairs. Je n'avais pas de corde. On en a trouvé dans votre chambre, d'absolument pareil à celle-là. Mais je n'avais pas emporté de corde ni de mèche. Tout s'explique, voyez-vous. Vous avez craint pour votre situation. Vous l'avez jugé perdu, si l'on découvrait l'état dans lequel votre brutalité avait mis le malheureux à père. Alors, au lieu de le conduire à Clermont, vous l'avez conduit à la Marnière, et là, vous l'avez tué. Non, non, ensuite, vous l'avez enterré. Monsieur, je sais bien que mes agissements sont extraordinaires, mais j'étais un homme fou. L'interrogatoire s'achève sur cette phrase. J'étais un homme fou. Questoret prononce pour la troisième fois. Il est 1 heure, l'audition des témoins commence. Je passerai naturellement avec assez de rapidité sur les dépositions qui n'apportent au débat aucun élément nouveau. Le premier témoin, M. Auguste Labitte, ancien député de l'Oise, directeur de l'asile de Clermont. Il déclare qu'avant l'épouvantable affaire dont il s'agit ici, Estoré ne lui avait jamais donné aucun sujet de plainte. Avez-vous su que votre employé était martyrisé, un pauvre petit idiot? Non, je l'ignorais. On m'a dit depuis qu'il avait seulement menacé l'enfant d'une douche et que celui-ci, épouvanté, s'était enfui dans la neige. Estoré était brutal, il était la terreur des employés et des malades. Il était brusque, oui, mais je n'ai jamais reçu de réclamation le concernant. Cependant, les aliénés se plaignent facilement, vous savez. Monsieur Estoré, savait-il qu'il serait expulsé si l'on découvrait la crime du 3 mars? Bon, il n'en pouvait pas douter. Il est interdit aux employés de frapper les malades. Monsieur le docteur Gustave Labitte, médecin en chef de l'asile et frère du précédent témoin. C'est sur bon ordre que les fouilles ont été opérées. Estoré disait qu'on pouvait creuser tant que l'on voudrait. Mais pourquoi avez-vous confié la direction de ce travail à l'homme que l'on soupçonnait d'un crime? Ben, j'étais sûr, de cette façon, d'avoir toujours Estoré sous la main. Vous voyez que cela n'a pas empêché de s'enfuir. Voici maintenant la déposition du garde Leclerc qui a suivi les traces de la voiture d'Estoré dans la Marnière. Leclerc a procédé, on l'a vu, avec beaucoup d'habileté. Il a suivi soigneusement la piste qu'il avait découverte, et sans lui, peut-être, la disparition du malheureux appert serait-elle toujours restée mystérieuse. Je savais bien, dépose-t-il, qu'appert n'avait pu s'enfuir comme le prétendait Estoré. Il était trop malade, trop faible pour cela. Aussi, dès que j'ai retrouvé dans le chemin de Breuil les traces d'un corps qu'on avait traîné et roulé, je pensais qu'Estoré avait tué le fou en cet endroit. Le garde Chenot, un vieux soldat à tête énergique et fine, raconte à son tour comment il a vu Estoré pratiquer des fouilles dans le silo de pommes de terre et comment lui-même a recherché et retrouvé le cadavre. Leclerc, mon camarade, m'avait dit en parlant d'Estoré, c'est un tueur d'hommes. Il m'avait raconté ce qu'il avait découvert dans le chemin de Breuil. Quand je commençais à fouiller dans le silo, chaque nuit, avec une bêche et une pioche, et je rebouchais les trous que je creusais avant que le jour ne parût. Et une nuit, oh, je crus sentir la main du mort. C'est alors que je prévins M. Labitte. J'assistais aux fouilles que dirigeait Estoré et qui furent naturellement inutiles. Il était toujours là quand, à mon tour, je pris la bêche et découvris le cadavre. Alors je lui dis, voilà votre travail. Il me répondit, je suis perdu. Estoré a tué Appert en lui passant un noeud coulant autour de la gorge et en le jetant hors de la voiture. Puis il a fouetté son cheval. Appert a été traîné sur le sol et étranglé. Après 2 ou 3 autres dépositions sans intérêt, l'audience s'est levée à 6 h 30 et renvoyée à demain jeudi pour les témoignages à décharge et les plaidoiries, 17 juin. Maître Lachaud a fait citer tous les maires des communes qui avoisinent Villers. Il leur demande d'éclairer la cour sur la réputation et les habitudes de leur ancien collègue Estoré. L'ensemble de ces témoignages est extrêmement favorable à l'ancien maire de Villers-sous-Escrerie. Estoré était obligeant, serviable, estimé comme un honnête homme, et même aimé. En dehors de la ferme, bien entendu. Tous ces maires de l'arrondissement de Clermont sont des cultivateurs aisés, fort intelligents, s'exprimant avec correction, même avec élégance. Nous sommes loin des pays pauvres et arriérés, où Monsieur le maire signe péniblement son nom. À midi, après une suspension d'audience, la parole est donnée au ministère public. Monsieur l'avocat général Bayle a parlé 1 heure et demie. Pour lui, jamais affaire ne fut plus facile à juger. Les circonstances matérielles du crime ne sont pas niables. Et quant au mobile, il est évident qu'Estoret a craint pour sa situation. Après avoir martyrisé et blessé à père, et il a espéré échapper à l'expulsion en faisant disparaître le pauvre fou. En raison des circonstances horribles dans lesquelles l'assassinat a été commis, l'organe du ministère public juge indispensable une condamnation à mort. Maître Lachaud prend ensuite la parole, et dans une plaidoirie aussi merveilleuse d'habileté que d'élévation, combat pied à pied l'accusation. Pour lui, le ministère public ne prouve ni la préméditation, ni même absolument le crime. Estoret, incontestablement provoqué par Appert, le 3 mars, a parfaitement pu avoir à lutter encore sur la route de Clermont contre le malheureux fou. Personne n'a été témoin de la mort de cet infortuné. Et s'il y a eu une rixe dont l'issue lui a été fatale, il n'est pas étrange qu'Estoret, épouvanté, ait voulu cacher le cadavre. On essaie de prouver la préméditation en disant que le maire de Villers avait emporté une pelle et une corde, mais personne n'a vu la pelle. Et quant à la corde, Estoret pouvait l'avoir d'ordinaire dans sa carriole. Elle a dû lui servir non à étrangler un vivant, mais à traîner un cadavre. L'illustre avocat adjure le jury de ne pas condamner sans pitié un homme sur des hypothèses. Il fait ressortir l'insuffisance du mobile en face de l'horreur du crime dont Estoret est accusé. Le gérant de la ferme de Villers était riche, mais s'il avait été renvoyé pour avoir blessé à père, il aurait retrouvé facilement une place de chef de culture. En terminant, et dans un admirable mouvement, Maître Lachaud rappelle les excellents antécédents de son client, sa vie toute d'honnêteté et de travail, et il le trouve une dernière marque de la droiture du caractère de l'accusé dans son retour volontaire vers les juges de son pays. À 6 heures, la délibération du jury commence. Au bout d'une demi-heure, la cour entre en séance. Le chef du jury donne lecture du verdict. Il est affirmatif sur la question d'assassinat, mais des circonstances atténuantes sont accordées à l'accusé. Estoret est condamné aux travaux forcés à perpétuité. En entendant l'arrêt, l'ancien maire de Villers paraît atterré. Ses yeux se remplissent de larmes et il quitte l'audience d'un pas chancelant.